Ben, Louis se tait, et finalement, comme je suis assez d'accord avec lui, tout particulièrement sur sa première interprétation, les autres aussi, mais j'avoue que l'interprétation ontologique, je n'ai pas encore très bien compris, donc je ne peux pas dire si je suis d'accord ou pas, puisque je ne comprends pas. Mais bon, mais la première interprétation, moi, elle me plaît bien, puis finalement, je pourrais me taire, ça me simplifierait les choses. Mais bon, je vais quand même un peu prendre la parole. Mais je suis à peu près sûre de ne pas être aussi subtile que Louis le dit. Alors, vous avez déjà entendu plusieurs pistes, plusieurs interprétations. Et finalement, j'y adhère également. Elles sont justes. Moi, j'aime bien la première, finalement, qui nous renvoie et nous dit « Allez, écoute, t'occupe pas trop de savoir qui je suis, mais vas-y ». Et donc, je vais essayer quelques interprétations, moi aussi, mais je vais essayer surtout de voir avec vous la nécessité, justement, de tenir en tension, de rajouter des interprétations aux interprétations. Alors, il est quelques lois en théologie, c'est toujours de remettre une phrase dans son contexte. Et finalement, aujourd'hui, je trouve que remettre la phrase dans ce contexte, après tout, c'est un jour de confirmation, c'est une bonne question de s'interroger. Qui est Dieu ? C'est assez intéressant. Parce que lorsque Moïse pose cette question, il sait déjà qui est Dieu. Il l'a dit et il le redira après. Il est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Et donc, il sait qui il est. Il ne sait peut-être pas comment il s'appelle vraiment, mais bon, peu importe. De toute façon, même une fois qu'on sait comment il s'appelle, on n'a plus le droit de prononcer son nom, donc ce n'est pas très important. Pourquoi pose-t-il cette question ? Eh bien, parce que ce Dieu des Pères, je vous parle à vous particulièrement, ce Dieu des Pères, on le connaît un peu. Mais à Moïse, il manque peut-être l'essentiel, c'est de faire l'expérience de la rencontre avec ce Dieu. Le Dieu de nos pères, c'est une chose, c'est important. Mais ce qui est important, c'est que le Dieu de nos pères devienne notre Dieu. Et peut-être que dans ce mouvement entre le Dieu des pères et ce Dieu qui répond « Je suis qui je suis », il y a un peu de cela. Ça ne suffit pas de savoir que Dieu est le Dieu de mes parents. C'est bien, j'ai de la chance, je suis née dans une famille protestante. Bon, tant mieux. Mais est-ce pour cela qu'un jour ou l'autre, moi, je peux avoir cette expérience essentielle de la rencontre et de l'amour de Dieu. C'est cela, probablement aussi, qui est dit. Et ce qui est important, ce n'est pas tant la réponse que la question, là. C'est que Moïse, il sent peut-être l'essentiel. Il sent le fait qu'il n'en sait pas assez. Et que ce n'est pas forcément d'ailleurs de l'ordre du savoir, c'est de l'ordre de l'expérience. Qu'est-ce que je dois expérimenter pour mieux te connaître ? Alors donc, vous voyez, une interprétation de plus. Et puis, je pourrais en rajouter et en rajouter. Mais bon, il y a des livres de théologie pour ça. Moi, je ne suis pas une très bonne théologienne, mais enfin, bon. Je m'intéresse plus au texte, à ce qui s'y joue. Et j'aime cette multiplicité d'interprétations. Donc, cette multiplicité d'interprétations, gardons-les. Alors, je voudrais un vrai... Vous allez arrêter votre catéchisme, les enfants. Je vais arrêter. Vous avez terminé votre catéchisme, mais je vais quand même faire un petit exercice avec vous tous de catéchisme. Vous allez prendre votre feuille de champ, vous allez la retourner, vous allez regarder là, le petit dessin. Qu'est-ce que vous voyez ? Un lapin. Qu'est-ce que vous voyez ? Un canard. Et voilà. Est-ce qu'il y a un canard ou est-ce qu'il y a un lapin ? Eh bien, il y a les deux. Voilà. Et le texte biblique, c'est un peu cela aussi. Eh bien, on peut y voir un canard, on peut y voir un lapin, et même parfois d'autres choses. C'est ce qu'on appelle, en termes savants, la polysémie. Eh bien oui, ces textes, ils ont plusieurs interprétations. Ils nous offrent plusieurs déclinaisons. Et ce texte, « Je suis qui je suis », est particulièrement polysémique. C'est pour cela, d'ailleurs, qu'il a fait couler tant d'encre et qu'on en parle encore et encore. Alors, pour essayer de nous en sortir, comment faire ? Eh bien, élargir encore et encore. Parce qu'il est de bon ton, et tous les biblistes et les théologiens le disent, Eh bien, il y a un écho dans le Nouveau Testament de ce passage. Louis a relevé, avec le début de l'Apocalypse, celui qui était, qui est et qui vient. Il y a un autre écho possible, c'est dans l'Évangile de Jean. L'Évangile de Jean, tous les bons biblistes, tous les bons théologiens ont relevé qu'il y avait de nombreux « je suis ». Alors certes, c'est vrai que Jean nous donne une haute idée de Jésus. J'ai une haute idée d'un Jésus, somme toute, qui, en tout cas, a une relation tout à fait spéciale avec son Père, qui est lui-même, cela nous est dit, la parole. Alors, ça me plaît bien, mais d'un autre côté, ça ne me fait pas avancer beaucoup. Pourtant, il y a un passage dans l'Évangile de Jean, un seul passage où il dit « je suis » sans suite. Parce que sinon, Jésus dit « je suis le chemin, la vérité, la vie ». Je suis le cep, vous êtes les sarments, je suis le bon berger, tous ces je suis que l'on peut comprendre. Mais je suis tout seul, comme exactement dans le livre de l'Exode, eh bien, on ne comprend pas. Alors, je vais vous lire, moi, comment je l'interprète et comment je le comprends, à la lumière, en fait, de ce texte dans l'Évangile de Jean, où Jésus dit je suis. Ça commence au chapitre 8. Tout à fait à la fin, et donc après le début du chapitre 9. Les habitants de Judée dirent à Jésus, « Tu n'as pas encore 50 ans et tu as vu Abraham. » Jésus leur dit, « en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, moi, je suis. » Là-dessus, ils prirent des pierres pour lui jeter, mais Jésus se cacha et sortit du temple. Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui demandèrent, « Rabbi, qui a péché, lui ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle ?» Jésus répond, « Ce n'est pas lui ou ses parents qui ont péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Il nous faut travailler, tant qu'il fait jour, aux œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. » Vous voyez là encore un « je suis ». Après avoir dit cela, il crache par terre et fait de la boue avec sa salive. Puis il applique cette boue sur les yeux de l'aveugle et il dit « Va te laver au réservoir de Siloé », ce qui se traduit par « envoyer ». Il y alla, se lava. Quand il revint, il voyait. Ses voisins et ceux qui auparavant avaient vu qu'il était mendiant disaient « N'est-ce pas celui qui se tenait assis et qui mendiait ?» Les uns disaient « C'est lui ». D'autres disaient « Non, il lui ressemble ». Et lui-même disait « Je suis ». Voilà donc un texte étonnant où Jésus vient de dire « Je suis », puis « Je suis la lumière du monde ». Il redonne la vie à l'aveugle qui lui-même va pouvoir dire « Je suis ». Alors, dans mes nombreuses discussions avec Louis, on n'est pas toujours d'accord, même si aujourd'hui on l'est relativement, il me dit finalement « Ce « Je suis » n'a pas forcément tellement d'importance puisque Jésus dit « Je suis » et l'aveugle dit « Après « Je suis ». D'ailleurs, c'est tellement ennuyeux pour la plupart des théologiens que c'est jamais traduit par « je suis ». C'est souvent traduit par « bah oui, c'est bien moi ». C'est bien moi qui suis là et qui vois à nouveau, je ne suis plus le mendiant. Et pourtant, à mon avis, il y a quelque chose qui peut nous interpeller, nous mettre en avant. C'est que le « je suis » qui est prononcé par le Christ, eh bien, je ne sais pas ce que ça signifie, mais en tout cas, c'est un « je suis » qui m'invite à moi, aller, exactement comme avec Moïse. C'est un « je suis » qui va permettre à dire à l'homme aussi « je suis ». Avant, il n'était rien, on ne le regardait même pas, ou à peine. Avant, peu de gens s'intéressaient à lui. Eh bien maintenant qu'il a fait l'expérience de la rencontre avec le Christ, il peut à nouveau dire « je suis ». C'est bien cela, à mon avis, qui me semble essentiel. Un « je suis » qui m'invite à être moi-même, à la lumière du Christ qui me redonne la vue, comme il a redonné la vue à l'aveugle, pour essayer de m'expliquer ce qu'il est vraiment. Mais la question du début reste en quelque sorte en suspens. Mais, et cela aussi, à mon avis, je pense, est essentiel, particulièrement pour vous. Vous avez pu l'expérimenter. La question reste en suspens parce que le texte biblique ne répond pas à nos questions. Vous l'avez bien compris, on vous l'a dit. Il ne répond jamais directement à nos questions, ce texte biblique. Mais il nous invite bien au contraire à répondre à un appel. Il faut répondre, oui, mais non pas à une question. Il faut répondre à un appel, à l'appel que nous envoie Dieu, à cet appel que fait le Christ à cet aveugle. Parce que l'aveugle, son histoire, elle continue. Il ne s'agit pas d'être, et que ça signifie rien, être, c'est-à-dire qu'il va témoigner, dire exactement ce que c'est que pour lui rencontrer le Christ. Ainsi, je suis qui je suis. Ben, peut-être vous n'aurez pas la réponse encore aujourd'hui, mais j'espère même que vous n'aurez pas la réponse. Parce que c'est toute notre question, la question de notre existence. Qui est-il et quelle expérience je vis avec lui? Qui est-il, celui qui est et qui m'invite, moi, à mon tour, à être également? Amen.